Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous pour ce jeudi de la bande dessinée organisée à l'occasion de l'exposition Corto Maltese au Centre Pompidou. Bonjour Rosalie Strosser.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors tu es l'autrice de Shiki, 4 saisons au Japon, une bande dessinée publiée dans la collection Virage Graphique des éditions Rivage, une bande dessinée dans laquelle tu racontes aux surprises 4 saisons passées au Japon. Alors on va parler évidemment de ce livre, de ta façon de dessiner le Japon, de représenter ce que tu as aimé là-bas, mais aussi tes déceptions. Mais avant de parler davantage dans le détail de cette bande dessinée, j'aimerais qu'on remonte le temps, parce que dans les jeudis de la bande dessinée, on s'intéresse particulièrement au début, aux premières fois. Est-ce que tu peux nous dire dans quel univers artistique est-ce que tu as grandi? Est-ce qu'on lisait beaucoup chez toi? Est-ce qu'on regardait beaucoup de films? Est-ce qu'on écoutait beaucoup de musique? Je pense d'ailleurs que tu te projetais d'ailleurs davantage dans la musique quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu peux nous raconter de quelles œuvres est-ce que tu étais entourée quand tu étais plus jeune?
Oui, alors c'est vrai que j'ai grandi dans une famille de musiciens. Ma mère est violoniste, mon père était prof de flûte à bec, musique ancienne. Donc on était vraiment dans ce milieu assez niche de la musique baroque. Genre, un de mes souvenirs de sortie quand j'étais petite, c'était genre des bals renaissance, donc c'est assez niche. Mais c'était une chouette enfance, un peu de privilégié, quoi. Mais c'était, donc j'ai grandi dans ça. Donc on écoutait beaucoup de musique, ouais. Surtout du baroque, du classique, puis après, ça s'est un peu étendu quand même. Et on regardait pas mal de films aussi en famille, on lisait, mais la BD c'est venu assez tard. Chez mes parents, il n'y avait que les classiques Tintin, Astérix, et donc j'ai découvert ça par moi-même plus tard.
Est-ce que justement tu te souviens de la première ou d'une des premières bandes dessinées qui t'a marqué, justement, pas forcément à l'enfance, pas forcément à l'adolescence, peut-être plus tard, mais en tout cas, voilà, une des premières bandes dessinées que tu as ouvertes et où tu t'es dit « Waouh, c'est super !»
Alors, il y en a eu plusieurs, à plusieurs stades. Quand j'étais vraiment petite, la première BD que j'ai vraiment choisie moi-même à la bibliothèque, parce qu'elle m'a tapé dans l'œil, parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait vraiment, c'était Yoko Tsuno. Non, j'ai déjà parlé, je pense, dans un micro. Et du coup, j'ai pas lâché ce truc-là. J'ai lu tous les tomes et ça m'a accompagné longtemps. Et après, je pense que j'ai eu un nouveau déclic quand j'ai fait mes études d'illustration dans un DMA illustration qui était pas mal orienté BD. Et là, j'ai découvert que en fait, c'était hyper vaste et que je connaissais que ce qui était quand même classique, les formats franco-belges, 48 pages, enfin 72 peut-être. Et je connaissais pas... Ouais, ce qu'on appelle roman graphique, même si ça me plaît pas trop comme terme, et j'ai découvert ça à ce moment-là, donc je saurais peut-être pas dire un truc, quoi, peut-être le premier, enfin le plus évident parce que c'était plus grand public, c'était peut-être Persepolis.
De Marjane Satrapi.
Oui, de Marjane Satrapi. Mais sinon, ouais, plein de trucs d'un coup en fait où j'ai passé ma vie à la bibliothèque quand j'étais à Paris, voilà.
On va parler de ces années d'études, mais pour rester encore un tout petit peu dans l'enfance, est-ce que tu dessinais déjà? Est-ce que c'était déjà un moyen d'expression pour toi ou est-ce que finalement c'est venu plus tard?
Alors je dessinais beaucoup petite, mais j'ai très vite switché et j'ai beaucoup recopié. En fait, je recopiais Yoko Tsuno notamment beaucoup, fait tout ce que je lisais, les bouquins d'illustration qu'il y avait à la maison, les cartes Magic ou les trucs cartes Harry Potter qui circulaient à l'école primaire et tout. Mais c'est vrai que j'ai un peu arrêté d'être dans la création, dans l'invention quand j'étais enfant et ado. Et ça, du coup, j'ai dû le faire quand j'ai fait mes études de dessin, parce que là, il fallait que je trouve une patte à moi. Donc ça, c'est venu un peu tard.
Mais certainement que d'avoir beaucoup recopié, ça t'a aussi donné une certaine aisance dans la représentation, ou en tout cas dans le geste. Mais on va revenir sur ces années d'études et tout ce que t'as appris justement dans cette école. Mais encore un instant dans l'enfance, parce que tu évoquais la musique classique, le baroque, mais pour la revue en ligne de la BPI, Balise, tu as dévoilé quelques œuvres qui ont été importantes pour toi. Et tu as cité Starmania comme étant une œuvre qui a marqué ton enfance.
Oups, j'ai fait ça. Ouais. Oui, bah, c'était un peu en rupture justement à ce qu'on écoutait à la maison. En fait, mes parents, c'est un peu la vie est un long fleuve tranquille quand même. J'ai mon père qui vient d'une famille un peu bourgeoise classique, musique classique et tout. Et ma mère qui, bien sûr, est violoniste, donc elle a toute cette culture-là, mais elle vient d'un milieu qui n'est pas du tout le même et qui est plutôt groseille du coup. Et donc c'était un peu... pour aller dans son sens, les trucs qu'elle écoutait avec ses parents quand elle était petite. Et donc c'était un lien qu'on avait aussi avec ce côté-là qui était un peu cher aussi. Et puis j'aime trop.
On te demandera une petite chanson, mais plutôt à la fin. On avance dans le temps. Tu parlais de ces études. On va peut-être passer rapidement sur le BTS de design graphique. Tu as étudié l'illustration à Renoir, à Paris. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es orientée vers l'illustration? Parce que tu disais qu'à un moment tu as un petit peu abandonné et que plus jeune, finalement, c'était plutôt dans la musique que tu te voyais évoluer. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es dirigée vers l'illustration pour tes études?
Alors, la musique, j'ai abandonné l'idée assez tôt parce que c'était un milieu qui ne m'attirait pas particulièrement. J'adore la musique et j'aime vraiment en faire. C'est une des choses que je préfère faire encore, hein, jouer de la musique en groupe. C'est quelque chose qui vraiment me fait vibrer, j'adore. Mais il y avait quelque chose dans le milieu que j'observais les amis de mes parents. Enfin, je voyais un petit peu les problématiques et ça ne me tentait pas plus que ça. Et puis aussi, je n'avais pas le niveau, en fait. Il aurait fallu que je bosse beaucoup plus et j'avais envie de garder ça comme un plaisir. Un loisir, quoi. Et par contre, après le lycée, j'ai un peu hésité entre faire une fac de chimie et de l'art appliqué. Et ça a été un peu le hasard. J'avais quand même mis art appliqué avant. Et j'ai eu la chance d'être prise. Du coup, j'ai fait ça, mais j'aurais pu être dans un labo à cette heure-là. Là, en train de...
Tu le disais, tu as fait un DMA, un diplôme des métiers d'art. Qu'est-ce que tu gardes de ces années d'études à Renoir? Qu'est-ce que tu as le sentiment que ces années t'ont appris de plus important?
J'ai adoré en tout cas cette formation, c'était vraiment chouette. Et même si on n'apprenait pas tant que ça le dessin, on n'avait pas de cours techniques d'anatomie, de perspective. Je pense qu'on était recrutés un peu sur. Même si on avait des faiblesses, mais si on avait quelque chose, quelque chose de graphique, pas forcément parfait. Et il nous poussait du coup à développer ça.
Une singularité, une personnalité.
Oui. Ouais. Et tant pis si c'était pas parfait, on mettait pas l'accent là-dessus, et j'ai appris que c'était pas grave en fait si on n'avait pas ce background technique, qu'on pouvait faire autrement, utiliser ses faiblesses pour faire quelque chose de riche, et donc peut-être ce sera ça.
Mais malgré tout, à la sortie de ces études, tu ne t'es pas tout de suite dit j'ai envie de faire de la bande dessinée. Et on va parler de ce voyage que tu as fait au Japon. Mais justement, parce que c'est une chose qu'on n'a pas encore évoquée, d'où te vient ce goût du voyage? On t'a invité aujourd'hui parce que on fait cette rencontre dans le cadre de l'exposition consacrée à Corto Maltese. Et forcément, quand on pense à Corto, on pense à ses voyages, on pense à ce noir et blanc aussi, on va en parler. Mais qui est-ce qui t'a donné à toi ce goût du voyage? Parce qu'on va parler évidemment du Japon, mais il y a aussi d'autres voyages qui t'ont marqué, et très certainement d'autres que tu vas faire et qui vont continuer à nourrir ton œuvre.
Je pense qu'à l'origine, ça vient de ma grand-mère, qui était une grande voyageuse. Elle a été veuve assez tôt et elle avait une bonne retraite. Et elle a vraiment beaucoup voyagé et surtout fait profiter tous ses petits-enfants. Donc elle a offert un voyage à chacun de ses petits-enfants. Moi, j'ai eu le Maroc quand j'avais 15 ans. Enfin, c'était vraiment, elle dépensait rien, mais par contre, elle dépensait beaucoup en voyage. Et donc ce côté globe-trotteur, ça m'accompagnait quand j'étais petite. Et c'est resté après, je sais pas, j'ai pas mal d'amis aussi qui voyageaient, qui faisaient des gros tours du monde en vélo. Et ça m'a toujours plu, les récits de voyage. Je sais que tu as eu Zéphir il n'y a pas longtemps, ce genre de récit, j'adore.
Et donc, le Japon, tu termines tes études à Renoir, tu ne te dis pas je vais tout de suite essayer de publier une première bande dessinée, comme ça peut arriver quand on sort de ses études, et notamment à Renoir, où quand même le diplôme de fin d'année, c'est quelque chose d'assez poussé. En tout cas, on vous encourage beaucoup à être dans la réalisation d'un bout à l'autre, d'un projet, d'une œuvre. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir au Japon? Est-ce que c'est justement les découvertes que tu évoquais tout à l'heure très, très rapidement, de toutes les œuvres que tu as découvertes pendant ces années d'études? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir là-bas?
Alors, j'avais envie de partir loin depuis longtemps et j'avais découvert le Japon pendant mes études. J'avais fait un petit séjour de 2 semaines avec ma mère, c'était son cadeau d'anniversaire de 50 ans. Et on était partis juste toutes les deux, 2 semaines, vraiment on a fait le classique Tokyo-Kyoto, et j'avais adoré, ça m'avait vraiment tapé dans l'œil. J'étais attirée de base par ce pays, et ça avait un peu confirmé tous les clichés, toute l'image, tout l'aspect idéalisé, enfin, ça avait confirmé ça, et j'avais envie, je m'étais dit, il faut que j'y retourne plus longtemps, que je découvre vraiment tous les aspects, enfin, que je me nourrisse de ça. Et c'était quoi la
La fin des études, oui. Le fait de ne pas tout de suite se lancer, de plutôt se laisser le temps et partir.
Oui, bah déjà, je ne me sentais pas du tout capable de raconter quelque chose. J'avais rien à raconter. Je n'avais pas vraiment de contact avec des éditeurs, des scénaristes, donc je ne savais pas quoi faire. Et j'avais pas cette envie. Je me disais, bon, peut-être que j'ai beaucoup aimé ces études, mais je ne suis pas du tout sûre de vouloir faire de la bande dessinée. Je vais peut-être juste en lire et ce sera très bien. Et finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais...
Et justement, on va parler de la façon dont tu as réalisé cette bande dessinée après ce voyage, de ta résidence aussi à la Maison des auteurs à Angoulême, qui a été très importante dans la réalisation de cette bande dessinée. Mais est-ce que tu sais quand est-ce que finalement il y a eu un déclic ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Peut-être que c'est quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus dilué dans le temps, mais ce moment où tu t'es dit, mais en fait, oui, c'est avec une narration, avec une bande dessinée que j'ai envie de raconter ce Japon que j'ai découvert, puisque tu disais que effectivement ces 15 jours passés avec ta mère t'avaient conforté dans toute l'idée que tu te faisais du Japon finalement, et on va en parler, c'est pas exactement ça que tu as découvert quand tu y retournais plus longtemps, il y avait ça évidemment mais d'autres choses également. À quel moment est-ce que tu t'es dit mais en fait il faut que je le raconte, et c'est la bande dessinée le bon moyen de le raconter?
Alors, la bande dessinée, ça a paradoxalement toujours été assez évident pour moi que c'était un médium qui m'allait, qui me parlait, parce que ça s'entend peut-être, mais je suis pas hyper à l'aise avec les mots, écrire, ça, c'est compliqué, et j'ai toujours, je pense, réussi à m'exprimer mieux en images qu'en mots, et enfin, l'association des deux, c'est quand même le mieux pour moi, et c'est un truc que la BD j'adore, enfin, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs moyens de raconter des histoires, où le fait d'incarner ces personnages, c'est hyper fort, donc ça c'était... évident que si je racontais quelque chose, ce serait avec ça. Et je ne sais pas s'il y a eu un déclic pour raconter cette histoire en particulier, mais j'avais envisagé de toute façon de raconter des choses pendant mon voyage. J'avais prévu de faire un blog BD, de raconter mon quotidien, des petites choses comme avait pu le faire Ulysse Malassagne, des petits strips sur le Japon, que j'ai pas fait du tout, parce que j'ai choisi de mettre sur pause vraiment le dessin à ce moment-là et de faire... une parenthèse de vie quotidienne qui avait rien à voir avec mon quotidien en France. Et voilà.
Et justement, c'est au retour que tu t'es lancée dans la réalisation de cette bande dessinée, notamment avec cette résidence à la Maison des auteurs à Angoulême. Est-ce que tu peux nous raconter, peut-être très rapidement pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est la Maison des auteurs, les auteurs et les autrices qui s'y croisent, qui viennent de différents pays, et comment est-ce que finalement cette résidence t'a permis, au-delà du temps que ça te permettait de consacrer à ce projet, comment est-ce que cette résidence t'a permis de te lancer, et en tout cas de t'accompagner pendant la création de ce livre?
Alors, elle m'a, oui, beaucoup aidée. En fait, j'avais essayé de commencer à raconter cette BD quand je travaillais. J'avais un job alimentaire et j'arrivais pas du tout, en fait, à concilier les deux. Du coup, j'ai vraiment fait ce choix d'arrêter ce travail, de déménager à Angoulême, vraiment dans l'optique de faire cette résidence pour pouvoir me consacrer à fond à la BD, pour essayer, dans de bonnes conditions. Parce que la MDA, c'est ça, c'est un bâtiment assez grand où on est entre 20 et 30 résidents. Ça dépend des fois, il y a des périodes plus ou moins chargées. Résidents et résidentes qui viennent d'un peu partout. En ce moment, il y a pas mal d'hispanophones. Et c'est super. On a à la fois un espace où on peut travailler efficacement, bien focus sur son truc. Et aussi, on peut échanger avec des gens qui font la même chose que nous, qui partagent les mêmes problématiques, qui font face aux mêmes problèmes. Et c'est hyper chouette parce que c'est quand même quelque chose d'assez solitaire, la BD. Et ouais, j'arrivais pas du tout à faire ça... avec un travail d'une part et puis aussi seul, sans accompagnement un petit peu affectif.
Mais on voit que du temps s'est écoulé entre la fin de tes études et finalement ce moment où tu vas à la Maison des auteurs et où tu te consacres à cette bande dessinée. Et pour l'anecdote, moi j'ai été jury à Renoir l'année dernière et je discutais avec Michel qui était déjà là, désolé Michel, je ne me souviens plus de ton nom de famille, mais avec Michel qui était donc déjà là quand tu étais étudiante, et quand je lui ai parlé de ton livre qui allait paraître, tout de suite il m'a dit c'est son livre sur le Japon, et en disant mais il y avait ça, enfin que alors est-ce que c'était du moment où tu étais étudiante ou des nouvelles que vous vous étiez données depuis, mais en tout cas pour lui c'était une évidence et que c'était enfin tu allais raconter ça et tu allais peut-être pouvoir passer à autre chose, mais en tout cas que pour lui voilà, c'était un peu enfin.
D'accord. C'est marrant, on n'a pas gardé contact, on a gardé contact peut-être les 3 années d'après le diplôme, Et donc, il savait que j'étais partie au Japon pendant un an et que j'avais vaguement ce projet, peut-être, de raconter des choses dessus. Et aussi, mon projet de diplôme, en fait, à Renoir, c'était une adaptation de quelque chose, mais ça parlait du Japon médiéval, donc il savait que j'étais quand même une grosse weeb.
Donc, bon, ça m'étonne pas. C'était ça, c'était lié au projet de diplôme. Et donc, cette bande dessinée, Shiki, 4 saisons au Japon, donc, qui, comme je le disais, raconte ta vie au Japon, les 4 saisons que tu y as passées. Ça raconte plusieurs voyages dans la bande dessinée. Quand tu t'es mise à écrire cette bande dessinée, à raconter la façon dont tu avais vécu ce voyage, qu'est-ce que tu avais très présent en tête, j'imagine, de représenter tout ce qui t'avait émerveillé dans ce pays, raconter aussi les choses qui t'avaient déçu, on va revenir là-dessus, et la façon dont tu les as mises en images. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu t'es lancée dans l'écriture, mais finalement, comme c'était une expérience personnelle, tu n'as pas écrit de scénario d'un bout à l'autre, tu as avancé par petits tronçons dans cette histoire. Est-ce que, très concrètement, avant de parler des représentations, avant de parler de quelque chose de très marquant dans l'œuvre d'Hugo Pratt, Corto Maltese, ce sont les objets des différents pays qu'il traverse. Toi, le Japon, il y a une attention particulière à la nourriture, au temple, à tout ce qui fait l'identité d'un lieu, en l'occurrence d'un pays. Est-ce que tu peux, avant de, encore une fois, parler vraiment de ce que tu racontes dans cette bande dessinée, nous raconter comment est-ce que tu l'as travaillé et comment est-ce que tu as avancé comme ça, petit à petit, tout en sachant où tu voulais aller, mais sans être sûr si ça allait. Alors, c'est une bande dessinée de 320 pages, sans être sûr de tu savais où tu allais aller, mais de comment est-ce que exactement tu allais y aller.
Je ne savais pas trop où j'allais. C'était vraiment, ça s'est construit au fur et à mesure. Ce qui est venu assez tôt, c'était les saisons, le découpage en 4 saisons, parce que j'avais vraiment envie de raconter, l'objectif quand même c'était de raconter la relation que j'ai avec ce pays, le Japon, qui est en nuance, quoi. Il y a des choses que j'adore, des choses qui m'ont énormément déçue, et je voulais du coup que le Japon ce soit un personnage aussi important que le mien dans la BD. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans les saisons au Japon qui sont hyper différentes, ils ont des petites traditions qui correspondent vraiment, enfin, je sais pas, ils ont une identité particulière, ça veut rien dire ce que je dis, c'est pas grave. Et en plus, j'avais eu des expériences géographiques différentes pour chaque saison, donc je pensais que je pouvais vraiment raconter un événement, enfin, des moments de ma vie, et en même temps en profiter pour raconter le Japon dans une saison. Voilà.
Donc ça, les saisons,
oui.
Et ensuite vraiment le petit à petit.
Processus.
Alors on ne les a pas ici, mais quand tu fais ton découpage, c'est vraiment presque des timbres-postes, les pages, un tout petit peu plus grands, mais tu ne faisais pas de la même façon, tu n'as pas découpé toute une saison avant de te lancer, c'était vraiment par séquence. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu comment est-ce que tu as travaillé très concrètement cette bande dessinée ?
Alors au tout début, j'avais quand même essayé de faire ça de manière plus classique, en mode scénario, storyboard. Donc j'avais commencé à faire un storyboard sur plusieurs pages. Et en fait, je voyais que j'arrivais pas, je recommençais tout le temps parce que je trouvais ça nul. Et au stade de storyboard, en fait, c'est facile de recommencer parce que c'est pas grand-chose. Et je me suis dit, non, arrête de faire ça, essaye de faire des planches finies, comme ça, t'auras passé 3 heures dessus.
Retourne en arrière.
Ouais, c'est ça. Et j'ai vu que c'était comme ça que j'arrivais à me stimuler aussi, à prendre plaisir à ce que je faisais. Donc de vraiment faire chaque étape petit bout, en fait, de faire mon petit scénario où j'écrivais pas grand-chose, hein, j'écrivais « Tiens, il se passe ça », et j'écrivais les dialogues. Mes petits storyboards, comme tu dis, sur, je pense, en A4, il y avait... ça fait un chemin de fer, quoi. Il y avait 20 pages donc en tout petit, où si j'attendais trop longtemps, je savais plus du tout ce que j'avais dessiné, donc il fallait que je le fasse vite. Du coup, ensuite, mon crayonné, puis mon ancrage, et ça permettait comme ça de pas m'ennuyer. Et je pense que ça, c'est pas forcément tenable quand on fait un récit de fiction, mais comme c'était de l'autobio et que j'avais juste à puiser dans les souvenirs et juste les organiser, ça marchait, c'est comme ça que ça marchait pour moi.
Justement, tu disais comme c'était de l'autobiographie, je pouvais avancer comme ça. Ça a été une évidence qu'à aucun moment tu allais passer par le filtre d'un personnage, comme certaines et certains font. On sait bien que même dans des fictions, il y a beaucoup de soi, et tu aurais pu décider de décaler un tout petit peu le regard. Ça, c'était pas, c'était dès le départ une évidence que, comme tu allais raconter ton regard, le regard que tu portais sur ce pays, les expériences que tu avais vécues, que ça allait passer par ce personnage qu'on voit sur la couverture et ce personnage qui est toi.
Ouais, je pense que je me suis même pas posé la question de l'autofiction. Je savais que j'allais raconter ça avec le jeu. À la limite, j'ai peut-être un moment hésité à prendre un pseudo, mais sinon, j'avais envie vraiment que ce soit authentique le plus possible. Et après, je me suis rendu compte que parfois, c'était un peu, ça limitait, et que j'aurais aimé pouvoir sortir un peu du cadre justement du réel. Et, parce que je me trouve un peu pénible parfois et j'aurais voulu être un peu plus cool, mais du coup, non, pour une prochaine.
Et se dessiner sur 320 pages ben, un peu moins, parce qu'il y a des pages,
oui,
où il y a
quand
paysages.
Même des pages. Où... Oui. Ben, c'est facile parce qu'on se connaît bien, on se voit tout le temps, mais c'est un peu long. On en a un peu marre, on a un peu envie de passer à autre chose.
Je le disais, dans cette bande dessinée, tu as représenté à la fois tout ce que tu aimais dans le Japon, et on va peut-être commencer par là. C'était important pour toi de montrer cette nature, de montrer les immeubles aussi, de montrer ce rapport aussi au sacré à travers les temples. Est-ce que, de la même façon qu'il y a, quand on est sur place, une certaine forme de douceur, quand on est dans ces lieux, est-ce que c'était aussi le fait de le dessiner, retrouver quelque chose de ça? Est-ce que c'était aussi, tu parlais des différentes saisons et qui correspondent à différents lieux dans lesquels tu as vécu, est-ce que c'était quelque part, quand tu dessinais, te retrouver à nouveau dans ces endroits?
Oui, carrément. C'était hyper agréable, déjà parce que j'avais pris quand même quelques photos pour me rappeler d'endroits, et du coup, juste de les revoir et de les dessiner, j'y étais à nouveau, et c'est, de les réinterpréter aussi, c'était top. Tout est graphique en fait là-bas, donc c'est hyper agréable à dessiner, que ce soit les villes ou la nature, enfin, la campagne.
Et là, on voit sur cette image, et je m'arrête là parce que c'est le seul moment où on le voit. On voit un personnage qui dit « à tout à l'heure » et on voit que son visage est un petit peu flouté. Alors là, on ne le voit pas très bien parce que c'est dans une petite case et le personnage est assez réduit. Mais voilà, sans rentrer dans le détail de tout ce que tu racontes dans cette bande dessinée, mais donc tu vas rencontrer un homme qui va abuser de toi. Est-ce que réussir à représenter et ça, se dire déjà, c'est quelque chose de très intime et c'est important que je le raconte, est-ce que ça a été une évidence qu'il fallait évidemment ne pas passer ça sous silence? Et comment est-ce que tu as trouvé comment le représenter graphiquement, c'est-à-dire de se dire non mais en fait j'ai pas envie de lui donner un visage, comment est-ce que tu as réussi à trouver cet équilibre que moi je trouve assez parfait dans la bande dessinée, de sentir d'instiller dès le début un malaise, c'est-à-dire que dès le début on sent qu'il y a quelque chose avec ce personnage dont on voit jamais les traits, pourtant il a l'air plutôt sympa et on avance tout en se disant il y a quelque chose, je crois que c'était pas complètement réfléchi dès le départ. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que finalement tu as réussi à raconter ce qui est l'entrée finalement dans la bande dessinée, puisque c'est au tout début de l'album. Comment est-ce que tu as réussi à raconter cet épisode-là, à la fois intimement et graphiquement?
Alors c'était évident que je voulais parler de ça, parce que je pense que c'est un événement hyper important et qui a fait aussi que j'avais... Mon regard sur le Japon en fait est quand même assez façonné par cette expérience-là aussi. L'évolution de ce regard surtout, qui passait d'un truc très idéalisé à un truc assez diabolisé, puis un truc maintenant plus apaisé. Donc c'était sûr que je voulais en parler, puis d'une part parce que à la base j'avais pas forcément, tu le sais, envisagé de publier cette BD, c'était vraiment quelque chose que je faisais pour moi, un peu en mode cathartique, pour vraiment, thérapie, pour comprendre ce qui s'était passé et le coucher sur le papier. Et après du coup, pour ce qui est de comment représenter ces événements, cette personne, je me suis quand même pas mal posé de questions et puis je bloquais beaucoup. Et donc c'est de là qu'est sorti ce visage fou, c'est qu'en fait j'avais quand même envie d'avancer sur la BD et j'arrivais pas à représenter cet homme. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je laisse son visage fou, on verra plus tard. Et en fait, en le voyant comme ça, je me suis dit, en fait, c'est parfait ça, c'est hyper fort, on se demande ce qui se passe. Et c'est comme tu disais, en fait, on sent d'emblée qu'il y a un petit malaise et en même temps, on ne sait pas trop. C'était toujours ça l'ambiguïté avec ce personnage, c'est que je ne savais pas, moi, s'il était vraiment particulier, si c'était un décalage culturel où je n'avais pas tous les codes. C'était toujours en nuance, quoi. Donc là, ça permet de même quand je raconte des choses banales, qui auraient été complètement banales, je pense, avec un visage, on se dit « Ah, peut-être un peu bizarre. » Et je trouve ça important parce qu'en France, on n'a pas trop ce truc du trigger warning, d'avertissement, de « il va se passer quelque chose d'un peu dur ». Et au moins, là, je trouvais que le lecteur est prévenu qu'il va se passer un truc. On ne sait pas ce que c'est, mais il va se passer un truc. Enfin, il y a Anguille sous roche, quoi. Et donc, ça permet d'accompagner un peu le lecteur, et pour pas, parce que je n'avais pas envie de heurter qui que ce soit, et je voulais raconter ça, en parler, mais pas blesser.
Et avec cette double page noire et une façon de te représenter à un moment donné, tout en transparence, comme si tu revenais, t'étais plus complètement toi-même, que t'étais pas présente à toi-même, alors sans forcément rentrer dans le détail de ce que ça représentait pour toi de te dessiner comme ça. Mais comment est-ce que ce type de représentation t'est venu ? Est-ce que ça aussi, ça a été quelque chose qui a été assez immédiat ? On disait tout à l'heure qu'à l'école, ils sélectionnaient sans doute des personnes sur leur univers, sur leur personnalité, sur la bande dessinée. C'est ça, c'est pas uniquement bien, avec beaucoup de guillemets, dessiné, même si tu dessines merveilleusement bien, mais il y a aussi de réussir à faire ressortir des émotions. Et le fait de te représenter comme ça, tout en transparence, ça dit quelque chose de ta façon de te ressentir à ce moment-là, sans avoir de texte off, sans avoir à l'exprimer. Et c'est quelque chose de beaucoup plus immédiat. Est-ce que ça, ce sont des trouvailles graphiques qui te sont venues très naturellement au moment du passage à l'ancrage? Comment est-ce que tu as trouvé cette représentation?
C'est venu hyper naturellement, ouais. Il y a vraiment ce truc de dissociation, en fait. Et tout bêtement, en fait, je ne me rappelle pas de ce trajet, en fait, entre l'hôtel que je quitte et l'endroit où je dois récupérer mes affaires. C'est un long trajet et j'ai aucun souvenir de ça. J'étais vraiment dans un... pas là, absente. Et me représenter absente, pour moi, c'était... Mais là, c'était de me représenter en transparence. Et puis je pense que c'est pas une image qui est... Je pense qu'elle est assez facile. Je sais que j'avais lu la BD, c'est... Non, je l'ai lu après d'ailleurs. Ou je sais plus. C'est comme ça que je disparais, de Myriam Mel. Et il y a ce truc de d'effacement, en fait, quand on subit ce genre de choses. Donc c'était assez... Ce pas était, je pense, a été déjà fait. Et... Ouais.
Tu racontes aussi dans la bande dessinée, on va rester un instant du côté des déceptions et plus que ça de ce qui fait mal pour aller vers et là on voit la scène de nourriture, donc on va aller aussi vers les grands plaisirs du Japon. Mais tu racontes aussi au-delà de ce moment particulier à quel point est-ce que le Japon est une société patriarcale, sexiste, et tu le racontes dans quelque chose de très quotidien. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est important dans cette bande dessinée, parce que c'est encore une fois, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est à la fois tout ce que, en tant que Française et Français, on peut imaginer du Japon, et qui correspond à une certaine réalité, la nourriture, les paysages, mais aussi des choses qu'on sait moins, qu'on entend moins à propos du Japon. Et il y a aussi juste autre chose, je vais rester là-dessus, même si ça s'éloigne un petit peu de ce que je disais, quoique, du fonctionnement de la société. C'est juste un instant sur les relations humaines, puisque tu racontes dans cette bande dessinée des rencontres avec des amis, que ce soit à l'endroit dans la ferme où tu faisais du woofing, ou plus tard à Tokyo. Je t'entendais raconter dans un entretien que finalement il y a quelque chose de à la fois très doux au Japon, parce que tout le monde est toujours prêt à aider, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une offre de service permanente, et qu'en même temps, dès lors que on est dans une certaine forme d'intimité, on peut pas aller plus loin. Et tu racontais, et je voudrais que tu le racontes puisque les personnes n'étaient pas là quand tu le racontais, que finalement tu avais des amis qui restaient sur place et qui avaient l'impression que finalement plus ils connaissaient la langue, plus ils étaient quelque part, ils se sentaient eux installés dans le pays, moins ils se sentaient j'allais dire, plus on leur faisait ressentir qu'ils ne seraient jamais japonais.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas eu cette expérience directe parce que depuis le début, on savait que je restais qu'un an. Et donc, j'étais une touriste. Même si j'ai pu créer des liens forts, j'ai pas ressenti ça. Mais j'ai pas mal d'amis que j'ai rencontrés, d'expatriés, du coup, que j'avais rencontrés à ce moment-là, qui eux sont installés, sont restés. Et même s'ils ont une famille, d'ailleurs, ils sont mariés, ils ont des enfants, mais il y a une distance qui est indépassable, en fait, dès lors que, ouais, ils maîtrisent complètement la langue. Il y a une réticence de la part des Japonais. Moi, j'avais accompagné comme ça un copain qui parlait mais complètement couramment. et dans un combini, dans un petit marché là où il achetait quelque chose, il parlait japonais et on lui répondait en anglais pour bien lui faire sentir que tant pis, tu parles parfaitement mais tu es un étranger. Et c'est un petit peu dur quand on a envie de vraiment faire sa vie là-bas et d'avoir des relations profondes avec les gens qui t'entourent. J'ai l'impression qu'il y a en général pas mal de réticence, que c'est compliqué quoi pour un étranger de vraiment habiter là-bas. Mais c'était dans la rencontre avec Kotimi, donc qui était une japonaise qui, elle, a quitté son pays il y a longtemps, en 96, je crois, et qui habite en France depuis. Et ce qu'il disait, elle, c'était assez choquant, que elle, quand elle rentre au Japon, elle est plus considérée comme japonaise, mais au point où les gens lui disent oh, « vous parlez bien japonais ». C'est hyper passif-agressif, je trouve, c'est chaud. Mais voilà, donc c'est ce truc-là.
Peut-être un mot rapide de la langue, parce que j'aimerais ensuite qu'on revienne vraiment à la bande dessinée, au dessin, au noir et blanc. Mais un mot de la langue, tu ne parlais pas japonais en arrivant sur place ou très très ouais. peu. Finalement, tu as parlé au début avec des personnes qui parlaient anglais et puis à un moment, tu as dû t'y confronter et maîtriser davantage la langue. Est-ce que tu peux juste nous raconter rapidement ton rapport à la langue et comment est-ce que finalement au Japon tu as réussi à communiquer avec les autres? Et est-ce que tu passais parfois par le dessin? Pas du tout.
Non. Non, pas vraiment. Je crois pas. La langue, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup avant d'y aller. Je m'étais dit, ah chouette, je vais vraiment essayer d'apprendre. J'avais appris les alphabets avant, les katakana, les hiragana, pour pouvoir au moins lire un petit peu, me repérer. Et c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. J'avais d'ailleurs prévu un petit peu ces woofing au début pour être dans la campagne avec des gens qui parlaient probablement pas trop anglais. Et finalement, ils parlaient quand même anglais. Et puis, de toute façon, ça s'est mal passé, donc je suis partie. Et c'est vrai que je suis assez timide, et du coup, j'osais pas parler japonais. Et quand on me parlait anglais, je choisissais la facilité, et je répondais en anglais. Mais passivement, je pense que à force d'en entendre, j'ai quand même fini par choper des choses. Et c'est sur les deux derniers mois de mon voyage où j'ai juste fait du stop. À droite à gauche dans les campagnes, de toute façon dès qu'on sort des grandes villes plus personne ne parle, c'est un autre monde, plus personne ne parle anglais, donc là j'avais pas le choix. Et en stop notamment on parle beaucoup, c'est un peu le deal, et donc j'étais épuisée à la fin de mes journées, mais c'est comme ça que j'ai vraiment appris. C'est sur la fin, ça a fait une petite exponentielle où je comprenais bien et je me faisais comprendre bien. Après je me dis pas grammaticalement ça devait être un peu nain, mais c'était gérable.
Et quand tu as réalisé la bande dessinée, tu as fait relire à des amis, notamment les enseignes, en tout cas tout ce qui pouvait être japonais, une écriture japonaise dans le livre.
Oui, parce que même déjà mon japonais est pas mal rouillé, mais alors l'écriture, je ne lis plus rien, et donc j'avais pas envie de marquer des enseignes avec des choses bizarres. Donc j'ai fait relire, et il y a quelques petites phrases aussi en japonais, donc j'avais envie que ce soit du vrai japonais. Donc j'ai fait lire justement à une amie qui est expatriée et qui habite là-bas depuis super longtemps, mariée à un japonais, donc ils l'ont lu ensemble, ils l'ont corrigé.
Je le disais. Il y a des superbes pages de nourriture dans cette bande dessinée. C'est quelque chose d'extrêmement important, j'allais dire d'extrêmement important au Japon, mais on en parlait aussi la semaine dernière lors de cette... Tu as fait une rencontre avec Kotimi et tu as rencontré aussi des publics allophones, des personnes qui avaient travaillé autour de ta bande dessinée et à qui les personnes qui organisaient l'événement avaient demandé à la façon de Rosalie, que Rosalie avait eu, de raconter à la fois ce qu'elle attendait du Japon et ce qu'elle avait découvert sur place. Ces personnes qui ont participé aux ateliers devaient raconter ce qu'ils imaginaient de la France et ce qu'ils avaient réalisé sur place. Et on s'apercevait que la nourriture aussi était très très présente. Est-ce que tu peux nous parler peut-être rapidement de ce rapport à la nourriture, mais qui finalement, j'allais dire, pas qu'il ne nous intéresse pas, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la façon de le représenter dans la bande dessinée, de comment est-ce que tu as voulu laisser une place à la nourriture dans l'album, parce que ce sont des moments importants, ce sont des moments que tu partages avec les filles quand tu faisais du woofing, c'est des moments qui marquent les journées et qui racontent quelque chose du Japon.
Oui. Oui, c'est vrai que c'était marrant, ces ateliers, on s'est rendu compte que vraiment le premier truc qu'on a envie de raconter d'un autre pays, c'est la nourriture. Je ne sais pas si c'est parce que la France et le Japon sont des pays qui sont particulièrement, qui ont une culture culinaire particulièrement importante, mais en tout cas c'était très présent dans ces ateliers, là. Il y avait beaucoup de trucs sur le pain.
Il y en avait une, je crois, et puis il y en a une, je crois, qui disait qu'elle avait découvert qu'il faisait très très froid, mais heureusement elle a découvert la raclette et le vin chaud.
Oui, c'est ça. Oui. Et donc oui, moi je pense que j'aurais pas pu parler du Japon sans parler de la nourriture, parce que même pour eux en fait c'est hyper important, ils sont hyper fiers de leur patrimoine culturel, et notamment la nourriture, et c'était, ouais, en plus c'est tellement beau, ils ont, tout est graphique encore une fois là-bas, tout, même la nourriture, surtout la nourriture en fait, c'est, donc c'est aussi agréable à dessiner qu'à manger. Et donc ouais, j'ai adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir à le dessiner, puis ça me, je sais pas, c'était des bons moments de partage, et ouais, c'est hyper important dans le, justement dans l'aspect relationnel que j'avais envie de raconter aussi, c'est des bons moments. Ça répond à ta question.
Ça répond totalement à ma question. Il y a aussi donc les paysages, évidemment, les saisons, là on voit des de la pluie, et il y a ce noir et blanc. Tout de suite, tu t'es dit que c'était avec le noir et blanc que tu allais pouvoir raconter au mieux cette histoire, avec ces aplats de noir, quelque chose de très graphique là aussi. Comment est-ce que c'est fait ce choix ?
Déjà parce que j'adore le noir et blanc. je trouve ça très beau. Je trouve que ça sert très souvent la narration quand on veut vraiment raconter quelque chose et sans lourdeur, je trouve ça super. J'ai découvert aussi les mangas des années 70 dont je me suis pas mal inspirée quand même pour l'aspect graphique, et je trouve c'est hyper fort en fait. Et aussi c'est, comme tu disais, une grosse bête, c'est 320 pages et j'aurais mis 15 ans je pense si je l'avais fait en couleur. Et ça aurait été un peu lourd. J'avais vraiment envie d'aller au maximum dans les détails pour pouvoir raconter le Japon le mieux possible. Et j'aurais pas su gérer ça en couleur, en fait.
Et ça t'aurait peut-être obligé à faire des choix qui auraient limité aussi la projection des lectrices et des lecteurs. C'est-à-dire que je pense que les personnes qui ont été au Japon le retrouvent totalement, que celles et ceux qui n'y ont pas été retrouvent une idée qu'ils se font du Japon, et que peut-être la couleur refaire un tout petit peu l'imaginaire, aurait figé quelque chose.
Peut-être, oui. Sûrement si je l'avais fait. Puis il y a un truc aussi, j'ai utilisé des cadrages un peu particuliers, un peu manga aussi. Un découpage manga, et je ne sais pas si ça aurait été gérable en couleur. Mettre de la couleur sur cet objet-là, je pense que ça aurait pas fonctionné. J'aurais dû le penser complètement différemment. Ouais.
Mais tu disais des cadrages un peu manga. Est-ce que c'est des choses que tu conscientisais au moment de réaliser la bande dessinée, ou c'est quelque chose qui finalement est venu après, de se dire, ah bah oui, effectivement, on voit l'empreinte de ces livres que j'ai adorés. Dans quel sens est-ce que ça s'est fait?
Je pense que je le savais au moment où je le faisais, et c'est aussi parce que c'est vraiment un type de narration que je trouve super. Il y a une rythmique qui découle de ces cadrages que je trouve super et que j'avais envie de m'approprier. Donc c'est venu comme ça. Puis après,
On disait, c'est donc une bande dessinée en noir et blanc, mais il y a quelques grandes illustrations en couleur. On en voit une ici, mais il y en a plusieurs entre justement les différentes saisons. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que, en cours de route, tu as décidé d'intégrer ces respirations au récit entre les saisons? Comment est-ce que tu as fait le choix de te diriger vers des récits mythologiques? Et comment est-ce que tu as... Trois questions en une. Et comment est-ce que tu as aussi imaginé ces images en couleur, qui étaient aussi... Je te parlais de respiration dans le récit, mais c'est aussi une respiration, j'imagine, pour toi, à côté des planches de bande dessinée, de pouvoir t'amuser aussi différemment en faisant des grandes illustrations.
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait de se dessiner sur 300 pages? On a envie d'arrêter de temps en temps et de faire autre chose. Donc c'est vrai que je n'avais pas pensé ça depuis le début, de faire ces transitions en couleur entre les chapitres. Ça m'est venu à mi-parcours, je pense. Parce que j'avais lu, pendant que je faisais cette BD, je lisais quand même des choses sur le Japon. Et j'avais lu des choses de la mythologie et j'avais hyper envie d'en parler. J'avais notamment le récit de la Genèse, que je trouvais super chouette. Et je ne sais pas, je me suis dit, peut-être que je vais faire une autre BD après sur la Genèse japonaise. Et en fait, je trouvais que ça pouvait s'intégrer très bien. Parce que... Est-ce que je réponds dans l'ordre? Bon, c'est pas grave. le fil conducteur quand même de ma BD, ça reste le sexisme au Japon, qui m'avait beaucoup surpris et déçu. Et donc j'ai trouvé ces récits mythologiques, des récits qui traitaient de ça aussi, et même dans les plus fondateurs comme la Genèse. Et voilà, donc j'ai pioché là-dedans. Et il y avait pas mal de choix pour ça. Et aussi, je voulais que ce soit en lien avec les saisons. Donc ouais, pour le printemps, c'est la princesse des fleurs de cerisier. Pour l'automne, c'est un petit yokai qui sort dans les forêts d'automne sous la pluie.
Avec voilà. Son tofu.
Avec son tofu, son petit bloc de tofu. Et voilà. Et donc, là, j'ai répondu à une question, je crois.
Non,
et
c'était sur le plaisir. Alors, tu l'as un petit peu dit en disant, à force de se dessiner, on a envie d'une récré, oui. Mais il y a aussi la dimension de la couleur, oui, et du plaisir qui est peut-être différent. Tu fais aussi, tous les ans, des calendriers avec des grandes illustrations peintes à la gouache. Quel plaisir est-ce que c'est différent d'utiliser la couleur ?
Ouais, c'est vrai que j'adore ça, la couleur. Je fais ça à la gouache. Et c'est... Si on regarde mon compte Instagram, d'ailleurs, c'est plutôt, on voit que ça. Je mets assez peu de ce que je fais en noir et blanc. Mais c'est vrai que le noir et blanc, pour moi, c'est la narration. Et la couleur, c'est quand j'ai envie un peu de m'émanciper de ça, de faire juste des belles images ou de raconter autre chose sans raconter vraiment des histoires. Et donc là, j'avais envie de faire un peu les deux. Donc c'est de la gouache. Mais il y a quand même, pour qu'il y ait une continuité avec le reste de la BD, il y a quand même un tracé en noir et blanc par-dessus. Ce que je ne fais pas forcément dans mes images pleines... Bref, donc ouais, c'était un plaisir, ça changeait, ça faisait une récré comme tu dis. Et puis pour le lecteur aussi, je pense que ça fait, il y en a plein qui disent oh, de la couleur, un petit feuillet, ça surprend et ça fait du bien peut-être.
Et justement, tu parlais de ton compte Instagram et j'espère que vous êtes toutes et tous abonnés au compte de Rosalie. Et moi, ce qui m'avait marqué quand j'avais découvert ton travail et ce que j'avais énormément aimé, c'était la diversité de tes styles graphiques et de comment est-ce que, selon ce que tu racontais, ce que tu représentais, tu étais capable de passer d'un style à un autre. Il y avait des portraits à l'aquarelle, il y avait des reproductions de scènes de films très, très précises, il y avait des strips beaucoup plus cartoon. Est-ce que c'est une chose que tu as aussi envie de développer, d'avoir à la fois ce trait qu'on connaît, qu'on reconnaît dans Chiki, et dans même temps expérimenter et essayer de trouver de quelle façon est-ce que chaque projet, que ce soit d'illustration ou de bande dessinée, qu'à chaque projet puisse correspondre la technique la plus adaptée, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du ressenti quand on voyait ton personnage en transparence, la technique aussi véhicule des émotions différentes, la couleur aussi. Est-ce que ça te plaît d'expérimenter ? Est-ce que tu as envie de continuer d'expérimenter différentes formes graphiques ? Et voilà.
Alors oui, ouais. En fait, ça a évolué parce que ce que tu décris là, mes différents styles graphiques qui sont sur Instagram, en fait, à la base, c'était vraiment des moments où je me cherchais, où j'avais l'impression de m'éparpiller. Et ça, c'est un truc qui m'a un petit peu... J'ai un peu souffert de ça pendant mes études, c'est que j'avais l'impression que mes autres comparses, ils avaient leur style, ils savaient quoi faire. Et moi, j'étais perdue, je découvrais tout d'un coup, j'avais tellement de choses que j'avais envie de... Enfin, qu'il fallait que je digère et que je me réapproprie d'une certaine manière. Et ça a été assez douloureux, en fait, de ne pas avoir ma patte. Et je me suis rendu compte assez récemment qu'en fait, ça peut être une force. Par exemple, David Prudhomme, qui a un style complètement différent sur chacun de ses bouquins. C'est trop bien. Quand tu vois l'expo, c'est génial, en fait, cette diversité. Et en vrai, quand je vois... Enfin, c'est super aussi, les gens qui ont vraiment leur patte. Mais quand on a lu 12 bouquins de la même personne et qu'on voit qu'il n'y a pas d'évolution, des fois, on est bon, c'est super, mais je connais. Et du coup, je me dis, peut-être c'est pas grave, et peut-être c'est même bien de chercher à innover, de faire des choses un peu différentes pour s'amuser aussi, continuer à s'amuser, et aussi pour répondre à ce qu'on illustre. C'est vrai que la technique va dire des choses, et donc je pense qu'il faut que ça. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui ce soir.
On a tout à fait compris
c'est la fin de semaine. oui, mais il faut que ça rende service quoi, à l'histoire, à la narration. Mais oui, j'ai envie de faire de la couleur, j'ai envie de faire d'autres trucs. Donc on verra comment je m'en sors parce que ça a l'air dur.
Tu disais, c'est la fin de semaine, donc c'est aussi la fin d'une tournée avec cette bande dessinée. T'as rencontré beaucoup de publics différents. T'as fait des ateliers avec des enfants, des adolescents. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ces rencontres ? Je pense que t'as été marqué déjà par la réception. Du livre, par le fait que ça touche autant de gens, mais et qu'est-ce que finalement tu gardes de ces rencontres, notamment plutôt avec le public ?
J'étais, ouais, comme tu dis, j'étais hyper surprise de la réception. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça marche, que ça se vende, que les gens m'en parlent, que les gens en parlent sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça m'a vraiment pris de court et c'était assez overwhelming, comment on dit ça en... C'était beaucoup, mais c'était trop bien et je mesure la chance que j'ai d'avoir eu tout ça. Merci pour ton boulot et pour le tien. Et c'était trop bien du coup de rencontrer son public aussi, de réaliser à quel point en fait le Japon fait rêver tout le monde et bon bref. Et puis les ateliers aussi, les ateliers, les rencontres, tout ça, c'est des choses. Il y a un an, j'aurais jamais cru que je ferais ça. J'étais paralysée la première rencontre, c'était une catastrophe et vraiment c'était horrible. Et en fait j'ai pris goût à ça, aux dédicaces, rencontrer les gens, aux ateliers avec les enfants. Je t'en parlais tout à l'heure, mais c'est trop bien en fait. C'est hyper chouette de partager. À partir de ça, eux voir leur création, c'est super cool. Donc merci en vrai.
Moi aussi, c'est la fin de semaine. J'avais une question qui m'était venue lors de ta précédente réponse, mais je ne l'ai plus en tête. Donc je vais peut-être vous laisser la parole le temps que je la retrouve, voir si vous avez des questions pour Rosalie. Et si on a un tout petit peu de temps, peut-être que tu pourras nous parler du projet sur lequel tu travailles actuellement. Puisque je vois ton scénariste dans la salle. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Rosalie, que ce soit sur cette bande dessinée en particulier ou plus largement sur la bande dessinée ou le dessin ? Je sens que Vincent a une question.
Est-ce que l'ancrage a été fait de manière traditionnelle ? Oui, oui. J'ai dessiné, j'ai fait le crayonné sur Photoshop quand même, parce que c'était plus simple pour storyboard, tout ça, pour gérer les choses, mais j'aime vraiment bien le tradi, d'avoir des planches originales à la fin, et puis j'arrivais pas à avoir cette même finesse de trait sur tablette que... Ouais, ouais. Enfin, c'est un peu... c'est pas tout pareil. C'était un peu le premier truc que je trouvais dans ma trousse, donc parfois c'était du stylo, parfois c'était de la plume, parfois c'était du stylo plume. Vers la fin, j'ai acheté un super stylo plume, donc c'était surtout du stylo plume.
Et puisqu'on parle juste de l'ancrage, Rosalie ne met pas ses bulles et ses textes dès le début sur les planches, c'est-à-dire que les planches originales sont... alors là, en l'occurrence, j'en montre une, c'est une image, mais et je dis ça parce qu'il y a eu des expositions et c'est intéressant de voir les réactions des gens où ces planches originales ressemblent vraiment à ce qui est dans l'album. Et il y a des personnes qui, quand j'étais à côté, me disaient « mais c'est une impression ». Non, c'est la planche. Il y a quelque chose de très maîtrisé. On peut voir des expositions où il y a beaucoup de repentir, où il y a des rustines, où il y a... toi, il y a quelque chose d'à la fois très, très délicat et en même temps très assuré dans tes planches.
Oui, on m'a beaucoup fait ce retour de « oh, c'est propre ». Et j'étais « ah bah super !» Donc voilà, je suis propre. Ouais. Mais en plus, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Dès que je faisais une petite tâche, j'étais genre « oh non, j'ai tout raté !» Alors qu'en vrai, les repentirs, comme tu dis, j'adore sur les planches des autres. Quand on voit le blanc, on voit qu'il y a eu un changement de truc, les tests, c'est vivant, j'adore ça. Mais j'ai pas sur les miennes, il faut que ce soit parfait.
Et j'ai retrouvé juste ma question parce que tu disais que finalement, quand tu étais au Japon, tu avais envie de faire un blog, de dessiner sur place et que finalement, tu as mis ça de côté, que tu as surtout pris des photos, que tu n'as pas tellement dessiné sur place. Et moi, quand je vois tes dessins et la façon que tu as de représenter les corps en mouvement, on sait bien à quel point c'est compliqué de donner cette impression de mouvement qu'on peut vite, et notamment dans des premières œuvres, avoir quelque chose d'un peu figé. Toi, c'est absolument pas le cas. Et généralement, les personnes qui ont ça, ce sont des personnes qui pratiquent beaucoup le croquis, le dessin sur le vif. J'ai pas le sentiment que tu tiens beaucoup de carnets. Est-ce que c'est en dehors des temps où tu travailles sur une bande dessinée, une chose que tu aimes encore faire ? Tu disais que quand tu étais petite, tu copiais ou que tu dessinais en tout cas. Est-ce que c'est une chose que tu fais encore, dessiner pour ton plaisir, pour toi ? Est-ce que la pratique du carnet, c'est une pratique que tu as eu à un moment donné ou bien que tu aimerais à un moment donné avoir? Est-ce que...
J'aimerais bien le faire plus. Je le fais vraiment pas assez. Et alors que, comme tu dis, c'est ça qui permet de faire un dessin non figé. Parce que moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'il est quand même assez figé encore. Mais bon, merci. mais j'arrive pas. C'est toujours cette panique de. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre. Et alors que le carnet, c'est un endroit d'expérimentation, je le sais, mais j'arrive pas à me le dire. Enfin, pour les autres, je suis trop contente. Pareil, quand il y a plein de trucs partout et que c'est n'importe quoi. Mais pour moi, il faut que ce soit parfait. Et du coup, je me bloque toute seule. Mais je fais des progrès. Donc, j'ai recommencé à en faire un il y a pas longtemps. Mais j'en ai plein qui sont des débuts de carnet où je me dis, allez, je me motive. Et puis en fait, j'ai 10 pages et j'arrête après. Donc peut-être ça va faire ça encore. Mais par contre, c'est quelque chose que j'adore. Genre, j'avais refait ça comme j'avais beaucoup de trajets en train avec la promo. J'ai beaucoup redessiné dans le train les gens et j'adore en fait. Puis ça fait passer le temps, c'est super.
Est-ce qu'il y a une autre question pour Rosalie? Non? Est-ce que tu peux nous dire un mot alors peut-être du projet sur lequel tu travailles ou c'est. J'allais dire c'est pour la première fois, mais en même temps, Chiki, c'était ta première bande dessinée. Mais pour la première fois, tu travailles avec un scénariste sur une bande dessinée au long cours. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
C'est trop bien. c'est super de travailler avec un si super scénariste. Je peux en parler. Donc c'est une BD qui n'a rien à voir. Ça parle pas du tout de Japon, de voyage. Ça parle de quelque chose que je ne connais absolument pas, à savoir le théâtre. Mais la personne qui a écrit l'histoire connaît très bien. Elle est là. Tu veux un micro?
Viens, Vincent, tu peux t'approcher.
Tu peux venir. Viens. T'es pas obligé. Mais comme il parle très bien mieux que moi, c'est peut-être mieux. Donc voilà. C'est le binôme de la prochaine BD. Et ça reste en noir et blanc, pour le coup. Parce que c'est une histoire... qui parle de l'humain, quoi, qui est assez simple. Et j'avais envie encore d'un dessin au service de ça, en fait, d'aller dans la simplicité. Je ne sais pas si ça te, ça te va. Donc voilà.
Et peut-être un mot, Vincent, est-ce que tu peux nous dire juste un mot de la façon dont tu as écrit ce scénario, c'est-à-dire d'avoir à la fois, effectivement, Rosalie disait des cours de théâtre, de l'humain, ça résume tout à fait bien, mais c'était comment est-ce que tu as voulu raconter ce que c'est pour ces, puisqu'on est dans les premières années d'études de théâtre pour des personnes qui veulent devenir professionnelles, c'est-à-dire ce sont des cours de théâtre, mais après le bac. Comment est-ce que tu as voulu à la fois raconter quelque chose d'extrêmement humain, de parler de ces étudiantes, de ces étudiants, des groupes aussi qu'ils forment, mais aussi de parler vraiment de théâtre, de théorie, de pratique, et comment est-ce que tu as articulé ça dans ce qui va être une série? Tu as 40 minutes, non?
Alors, ça marche?
Oui, ça marche, ouais.
J'ai pas l'impression.
Non,
que...
j'ai pas l'impression. Tiens.
Non. Oui, là, ça marche. J'ai rien préparé. Hein. Donc, bon.
Connais ton sujet.
Non, mais disons que c'est effectivement tout l'enjeu que tu as résumé. En fait, là, on va dire le thème, le cadre de l'histoire, c'est un cours de théâtre. Cours de théâtre pour aspirants comédiens professionnels. Donc, effectivement, des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Et l'enjeu pour moi, c'était justement à la fois de raconter deux choses, de raconter effectivement comment on apprend. Alors, comment on apprend l'art du théâtre, l'art de l'acteur, mais au-delà de ça, comment on apprend un art et aussi qu'est-ce qui se passe en fait chez des jeunes gens de cet âge-là qui apprennent un art en fait. C'est-à-dire que c'est un âge aussi particulier, 18-25 ans, c'est un âge effectivement de construction. Il y a énormément de rêves, d'illusions qui vont se confronter avec la réalité. C'est pas forcément négatif du tout. D'ailleurs, en fait, ça peut être douloureux, mais pas négatif. Et voilà, donc ça permet de raconter à la fois cette période de la vie, mais aussi comment on traverse cette période de la vie quand on apprend un art. Et du coup, l'enjeu, c'est à la fois de développer une narration avec vraiment des personnages. Bon, là, on a vraiment un personnage principal qu'on suit, des personnages secondaires. Il y a vraiment une narration avec des personnages, des relations humaines. Mais aussi, on tente en tout cas de parler aussi vraiment... vraiment de théâtre, quoi, et de l'apprentissage de l'art concrètement, quoi, et de tenir les deux ensemble, en fait, voilà, que ça soit vraiment une histoire aussi avec du suspense, des relations humaines, quoi, et en même temps d'ouvrir sur des choses plus voilà, plus question esthétique, quoi.
Et ça va être génial, mais il va falloir attendre encore un tout petit peu. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Non. Ben merci infiniment, merci beaucoup Rosalie, merci Vincent, et puis merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous ce soir, et puis très bonne soirée, très bon atelier pour celles et ceux qui vont faire l'atelier avec Rosalie tout de suite.
Merci beaucoup. Alors avant de vous laisser passer à l'atelier, bon, je reconnais des visages que j'ai déjà croisés, mais c'est pas grave. Je vous fais passer une petite tablette pour celles et ceux qui le souhaitent. Vous pouvez y inscrire votre mail pour être tenu au courant du reste de la programmation de la BPI et de Nouvelle Génération. Donc les rendez-vous des jeudis de la BD pour nous, là on en fait toutes les semaines, mais c'est aussi tous les mois, toute l'année, tout le temps. Donc on continuera à en proposer, là on en a encore deux, la semaine prochaine et la semaine suivante. Mais à partir de la rentrée d'octobre, on en proposera, comme à l'habitude, un par mois. Je continue. Donc je vais passer la petite tablette, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez aussi retrouver... On va attendre que l'annonce soit terminée.
Ouais.
Je reprends. Du coup, je vous redonne les petits programmes du reste de la BD à tous les étages, donc avec les expositions, les différentes manifestations. Et vous avez tous les événements de la BD hors les cases, donc des événements comme ce soir, mais d'autres aussi, d'ateliers, que vous retrouvez juste derrière moi, donc n'hésitez pas à les consulter. Et puis voilà, pour celles et ceux qui le souhaitent, on va passer à l'atelier, donc vous pouvez rester tranquillement assis. Et merci encore.